accompagne le projet jusqu'à formaliser la forme que pourrait prendre une exploitation sylvicole sur cette parcelle. Donc on s'entend sur la définition d'un îlot de sénescence, d'un espace de libre évolution, et sur le reste de l'espace, celui sur lequel on se permet d'exploiter, on essaie d'aller jusqu'au bout de l'idée en disant, ben voilà, si on doit exploiter, il faut le faire comme ça. Idem pour l'agriculture, en grande culture, idem pour l'élevage ou le pastoralisme.
Oui, donc c'est pas forcément des sanctuaires. On peut avoir de bonnes pratiques. L'homme peut cohabiter avec la nature.
Nous, on est assez sensible à certaines démarches qui sont portées à l'échelle européenne. C'est des choses qui sont incontestablement vertueuses d'un point de vue purement écologique. Mais par contre, on ne peut pas imaginer pouvoir déployer ça à grande échelle. Donc même si on arrive un jour à déployer ce genre de projet, ça ne nous dispensera pas d'une réflexion sur la reconstruction, la recomposition de notre rapport au vivant dans les forêts qu'on exploite, dans les terres qu'on exploite, qu'on cultive, dans les prairies qu'on pâture, etc.
Vous êtes un fonds de dotation. Bon, on a compris qu'il y avait déjà un peu d'argent qui était sur la table, mais vous en cherchez, je suppose, un peu plus encore ?
Pour faire fonctionner tout ça, on a besoin de mécènes. Donc on a besoin de renforcer notre pouvoir d'action, sachant que nous, le fonctionnement du fonds de dotation, c'est que notre dotation initiale sert à faire fonctionner le fonctionnement de la fondation tel qu'il est aujourd'hui, et tout apport supplémentaire sert uniquement aux acquisitions foncières ou aux contrats d'obligation réelle environnementale. Mais on a aussi besoin de bénévoles, parce que les plans de gestion des sites qu'on possède nécessitent des interventions.
D'accord.
Et ensuite, on a besoin d'un réseau de partenaires établis, notamment pour de la veille foncière, parce qu'aujourd'hui il y a une vraie guerre du foncier pour savoir ce qui est à vendre ou savoir ce que certains propriétaires seraient prêts à faire en matière d'obligation réelle environnementale, par exemple. Et ce contact avec les gens qui détiennent la terre aujourd'hui, il est indispensable, et ça, on en a vraiment besoin.
Ça, c'est un réseau que tout le monde peut aider. On va faire une petite pause musicale. Tu as envie d'écouter quelque chose?
Un groupe que j'apprécie beaucoup, c'est San Salvador.
Alors nous voilà de retour avec Thomas Contamine pour la fondation Clamor Terrae. Thomas, quand on a préparé très rapidement cette émission au téléphone, tu m'as dit que la fondation, ce qui était intéressant, c'est qu'elle elle investissait finalement des angles morts de ce que les associations classiques peuvent ou les entreprises d'ailleurs peuvent faire. C'est quoi ces angles morts?
Parmi les acteurs historiques qui sont investis la plupart du temps tout à fait sincèrement dans la préservation des écosystèmes, que ce soit des collectivités territoriales, les services déconcentrés de l'État, les associations historiques de protection de la nature, de par leur mode de fonctionnement intrinsèque, leur inertie respective, leur façon de fonctionner, ben dégager chacune à leur manière des petits angles morts, des endroits où ils ne pouvaient pas intervenir, ils ne pouvaient pas agir. Et donc nous, l'idée, c'était quand au lancement des réflexions, c'était pas du tout de devenir un acteur de plus qui allait concurrencer ce que les autres faisaient déjà, mais plutôt de déployer nos moyens précisément dans ces angles morts en essayant de faire ce que les autres avaient du mal à faire ou ne pouvaient pas faire parce qu'ils n'avaient pas un modèle qui était fait pour. Je prends un exemple très concret sur la question de la gestion des forêts, par exemple. Des acteurs de protection de la nature stricto sensu, il y en a un certain nombre qui font et qui le font très bien, de la gestion avec de la libre évolution pour des très très belles forêts avec des hauts patrimoines écologiques. Et ensuite, à l'autre bout du spectre, pour des forêts qui ont été plantées en monoculture de Douglas dans les années 70, parce que c'était la manière dont on faisait à l'époque, des acteurs de protection de la nature qui s'intéressent à ces types de fonciers pour essayer de réorienter leur trajectoire écologique, il y en a très très peu. Et donc nous, on s'est dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire là, parce que si on raisonne en ratio de surface, malheureusement aujourd'hui, des plantations monospécifiques à grande échelle, il y en a malheureusement beaucoup plus que des vieilles forêts à haute valeur écologique. Donc faisons tout pour protéger ces forêts à haute valeur écologique, mais il faut quand même se demander ce qu'on fait du reste, et donc c'est une partie des choses qu'on souhaite faire.
Vous avez des réalisations justement en cours ?
Ben, un certain nombre. Donc là, on a véritablement lancé l'activité de la fondation au printemps 2025, donc ça fait pas tout à fait un an, mais on a déjà participé à l'acquisition ou acheté à peu près 400 hectares de foncier dans les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées Atlantiques, les Pyrénées Orientales. Voilà, donc dans ces modèles d'acquisition, nous, on n'a pas vocation nécessairement à devenir propriétaire. Il y a beaucoup de choses qu'on achète pour le compte de nos partenaires, dont les conservatoires d'espaces naturels, que ce soit Nouvelle-Aquitaine ou Occitanie, nos partenaires associatifs, forêts préservées, Nature en Occitanie, etc. Voilà. Ensuite, on a mené un travail à l'automne 2025, là, qui a été publié au tout début de l'hiver, de réflexion autour de l'avenir de l'hydroélectricité dans les Pyrénées, avec une sorte d'état de l'art sur les projections climatiques et l'impact que ces projections climatiques auront sur le débit de nos cours d'eau, de mettre ça en regard de l'activité hydroélectrique. Enfin, le phénomène dominant, c'est une modification de la distribution annuelle de ces précipitations. Donc ça, c'est le phénomène marquant. Mais en plus de ça, il va y avoir une diminution du volume absolu. D'accord. Voilà, il y a les deux. Mais de toute façon, pour l'hydroélectricité, c'est un vrai problème, même s'il n'y avait pas de modification du volume absolu, mais simplement un changement de régime de pluie avec une distribution dans l'année modifiée, ça a un impact tout à fait déterminant parce que ça change en fait le rôle de château d'eau, de stockeur des volumes d'eau que jouent les montagnes, le massif pyrénéen.
Je me disais que ça pouvait justement renforcer du fait de ces épisodes brutaux où justement les barrages allaient pouvoir se remplir et se vider entre les épisodes brutaux.
Alors ça dépend, parce qu'en fait le grand drame de l'électricité, c'est qu'elle ne se stocke pas, donc ce qui veut dire qu'il faut qu'on puisse la produire au moment où on en a besoin ou pouvoir la stocker. Mais encore une fois, ces épisodes brutaux, ils sont tellement brutaux que ça oblige beaucoup des gestionnaires hydroélectriques à ouvrir les vannes quand il y a des orages pour limiter les pressions sur les ouvrages, et donc l'effet de stockage, on passe un peu à côté. Et puis pour toutes les stations, et c'est la majorité d'entre elles qui sont au fil de l'eau, qui n'ont pas de manette sur lesquelles appuyer pour gérer le stockage, ben ils prennent ce qu'il y a à prendre, et une fois qu'ils sont au maximum de leur capacité de production, il peut y avoir trois fois le débit, ça ne changera pas grand-chose pour elles. Et sur ces questions d'hydroélectricité, la principale conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'aujourd'hui, ce serait une aberration complète que d'imaginer de nouveaux aménagements hydroélectriques. Mettre des moyens pour aller artificialiser les derniers cours d'eau qui ne le sont pas, parce qu'il y a quand même l'essentiel des cours d'eau pyrénéens qui sont aujourd'hui captés, c'est assez fou. Et donc nous, ce qu'on préconise plutôt, c'est de mobiliser les financements qui auraient pu servir à créer ces infrastructures-là pour moderniser, entretenir, faire durer le plus longtemps possible toutes les infrastructures hydroélectriques déjà existantes. Et ensuite, un chantier sur lequel on travaille là, qui va être publié tout bientôt, c'est une sorte de guide à l'attention des élus municipaux, dans le cadre des élections municipales, qui fait un petit effort de synthèse sur ce qu'il serait le plus prioritaire, déterminant, de mettre en œuvre à l'échelle du mandat municipal à venir, en matière de préservation des écosystèmes et de la nature, dans le périmètre des compétences d'une commune ou d'une intercommunalité.
Quelles sont les pistes que vous donnez aux élus?
Donc il faut commencer par arrêter ce qui détruit les écosystèmes, parce qu'on peut déployer tous les efforts qu'on veut pour les restaurer, on aura toujours un temps de retard sur les destructions si on continue à le faire au rythme auquel on le fait. Le deuxième point, c'est de commencer par les actions à forte inertie. Typiquement, la lutte contre la pollution lumineuse, c'est un impératif déterminant, et à la fois pour des questions d'économie d'énergie ou de préservation de la biodiversité. Mais l'avantage avec ce genre de décision, c'est que le jour où on décide d'éteindre, on éteint, et 20 minutes après, la pollution s'est résorbée et détruite, il n'y a aucune trace, c'est terminé. Si on décide de planter un arbre, il va falloir 30 ou 40 ans avant que ça produise des effets. Donc si on doit commencer par quelque chose, caricaturalement, plantons des arbres avant d'éteindre la lumière, voilà, en termes de priorisation. Et après, le dernier principe, c'est de miser sur les actions qui présentent des co-bénéfices. C'est-à-dire qu'on est tellement en retard sur la mise en œuvre de ce qu'il faudrait faire pour diminuer l'ampleur du problème, qu'il faut essayer de miser sur les choses qui présentent des co-bénéfices. L'essentiel des préconisations qu'on fournit, elles ont trait aux logiques d'aménagement du territoire, à travers notamment les documents de planification d'aménagement du territoire, les plans locaux d'urbanisme, etc. Et le principal levier sur lequel on peut jouer, c'est l'artificialisation. Essayer de réduire au maximum l'artificialisation, de remployer le foncier, de réutiliser des parcelles déjà artificialisées pour limiter les pressions nouvelles sur les écosystèmes, parce que toute nouvelle mise en chantier d'une parcelle, c'est la destruction de la parcelle concernée. Mais il faut imaginer aussi ce que ça implique en matière de mobilisation de ressources, matériaux qui viennent d'ailleurs, qu'on a détruits également pour pouvoir construire sur cette parcelle. Donc il y a toutes ces destructions cachées quand on ne considère que la parcelle en question, mais qui font que le problème en fait est le premier sur la pile.
On a parlé tout à l'heure rapidement de comité scientifique. Quels sont les scientifiques avec lesquels vous travaillez?
Alors pour l'instant, donc, le comité scientifique, il est en cours de structuration, donc il est ouvert à toute contribution volontaire. Donc les scientifiques qui composent ce comité le font à titre bénévole. On leur soumet nos propres productions, nos rapports, nos écrits, nos notes d'analyse pour relecture et avis. Et on essaie d'enrichir au mieux la qualité de nos productions par leur avis. Et ensuite, nous, on a aussi une activité de soutien de programme de recherche. C'est-à-dire qu'on peut financer, là, on a une convention de partenariat avec le CNRS d'un labo à Toulouse pour un programme de recherche. Donc ça fait partie des activités qu'on soutient. Et aujourd'hui, les gens qui composent le comité scientifique, c'est essentiellement des écologues, profil écologue, éthologue essentiellement. Mais on a vraiment la volonté de l'ouvrir à d'autres champs disciplinaires. Moi, je viens des sciences humaines, et je sais tout ce que le champ de la recherche en sciences humaines pourrait apporter sur la sociologie de la transition, notamment. C'est un changement de nature anthropologique qu'il faut qu'on entreprenne. Donc on a aussi besoin de ces compétences-là dans ce qu'on mène. Et on a aussi besoin de juristes, notamment, en droit de l'environnement. Donc ça fait partie des profils qu'on recherche. On aimerait bien pouvoir, pour qu'on soit informé de l'actualité de la recherche ou des nouveaux champs de la recherche sur ces domaines-là.
J'ai vu aussi que vous aviez des partenaires, on en a parlé tout à l'heure, on en a parlé d'un, FNE, il y en a d'autres, j'ai vu sur le site, je ne les ai pas forcément retenus.
Oui, donc on a un écosystème.
Ça sert à quoi vos partenaires?
Alors, ça sert à démultiplier nos projets. Alors déjà, parce que c'est des partenaires avec lesquels on partage les mêmes intentions, les mêmes orientations stratégiques, et on est dans une logique de complémentarité, comme je disais. Et donc ces partenariats, donc on a un partenariat avec France Nature Environnement, un partenariat avec la Maison de la Nature et de l'Environnement des Hautes-Pyrénées également.
Et au bord d'un très joli lac où on peut observer les oiseaux.
Exactement.
Migrateurs en particulier.
Implantés dans un super lieu qui mène de très beaux projets, notamment de plantation de haies, essentiellement contexte agricole, mais pas que, voilà, arbres et paysages. Et donc c'est cette activité-là qu'on soutient à travers notre partenariat. Et donc voilà, pour nous, en gros, ces logiques de partenariat, c'est aider les gens qui défendent les mêmes causes que nous à démultiplier leurs moyens d'action sur les sujets que nous, on n'a pas l'expertise de mener en propre. Toujours dans cette idée de complémentarité et d'angle mort, on mobilise notre capacité redistributive collective pour des projets qu'on n'aurait pas l'expertise de mener directement. Typiquement, la Maison de la Nature et de l'Environnement, ils font ça mieux que personne d'autre sur le département pour planter des haies ou des arbres hors contexte forestier. Donc il n'y avait aucune raison qu'on entreprenne ça de notre côté. Mais on est convaincu de la nécessité de le faire, d'où cette convention de partenariat.
Très bien. Alors on l'a déjà dit, vous êtes basé sur les Pyrénées, mais pourquoi avoir choisi là ? Il y a un enjeu quand même encore ?
Oui, alors il y a un véritable enjeu. Alors il y a de toute façon une part, on va dire, d'irrationnel ou de subjectivité. C'est parce qu'on est tous très attachés à ce territoire-là. C'est aussi pour ça que la Morterra travaille sur les Pyrénées.
Vous voulez que ça reste sauvage ?
Mais on veut surtout que ça continue de vivre, tout simplement parce que on peut faire un double constat sur les espaces comme les Pyrénées. Il y a d'un côté effectivement cette image d'espace sauvage très préservé, mais il faut toujours se rappeler que si ça nous apparaît comme sauvage et préservé, c'est surtout par comparaison avec d'autres endroits qui eux sont plus du tout sauvages et plus du tout préservés. On peut penser à des zones des centres urbains, des grandes plaines agricoles où là on perçoit vraiment le caractère intensif de l'implantation de l'homme, mais parce que si on regarde véritablement en valeur absolue le caractère sauvage ou la richesse biologique des Pyrénées, oui, c'est bien, mais on pourrait mieux faire. Il faut toujours garder en tête que dans un kilomètre carré de forêt tropicale, il y a plus d'espèces que dans toute l'Europe de l'Ouest. Donc en termes de richesse intrinsèque et de valeur absolue, c'est pas si exceptionnel que ça. C'est exceptionnel, ramené à son contexte européen qui par ailleurs est extrêmement artificialisé sur de très grandes emprises. Donc ça, c'est une première idée. Et ensuite, même en partant de ce constat-là, nous l'objectif c'est pas du tout d'imaginer des Pyrénées. Les Anglais ont un terme pour ça, ils parlent de rewilding, de réensauvagement complet. Nous, c'est pas du tout notre intention. L'idée c'est de pouvoir donner les meilleures armes possibles à nos écosystèmes pour pouvoir essayer de subir le moins durement possible les effets du changement climatique qui se profile.
Et les hommes qui y sont dessus aussi. Permettre aussi de continuer le dialogue de l'homme et la nature, c'est un peu votre idée.
Exactement, parce que nous, quand on parle de biodiversité ou d'écosystème, il y a l'homme au milieu de tout ça, ou plus exactement, qui dépend de tout ça. C'est pour ça que le terme d'environnement, il est très très mal choisi, parce qu'en fait, le vivant, c'est pas ce qui nous entoure, c'est ce qui nous fonde, en fait. On peut pas faire sans. Donc effectivement, je l'ai pas reprécisé, mais nous, quand on parle d'écosystème, ça intègre l'homme, et si on parle d'écosystème pyrénéen, montagnard, par exemple, l'agropastoralisme est une composante tout à fait incontournable de ces réflexions-là. Et pour en revenir au changement climatique, ce qui est certain, c'est que, enfin, ce qu'on sait aujourd'hui de façon certaine, c'est que les effets du changement climatique, pour des raisons qu'on n'a pas encore tout à fait bien établies, sont plus durs, plus rudes, ou en tout cas plus rapidement dans les Pyrénées, ou en montagne en général, qu'en plaine. Et donc, à ce titre-là, c'est plus urgent encore qu'ailleurs pour pouvoir essayer déjà, comme je le disais tout à l'heure, d'arrêter de limiter la casse, d'arrêter d'aggraver le problème en quelque sorte, en renforçant l'artificialisation, etc. etc. Et puis d'essayer de réfléchir à la manière dont on peut adapter nos pratiques, tout simplement pour que la fête dure encore un peu, parce que nous, on aime ce territoire tel qu'il est, et si on a envie qu'il continue à nous offrir les richesses qu'il nous offre, il va falloir remettre un petit peu en question la manière dont on l'exploite aujourd'hui pour sortir précisément de cette logique d'exploitation.
Alors on a vu, hein, on a fait quelques émissions déjà dans les Pyrénées, on a vu ces projets de grandes scieries qui auraient vocation à raser les forêts, mais pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y a justement, surtout en haute montagne, on a l'impression qu'il y a une gestion relativement saine et équilibrée, avec de l'élevage extensif plutôt qu'intensif. Non, je me trompe, c'est une...
Il y a un effet de source que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours tendance à comparer cette situation-là à d'autres systèmes qui sont beaucoup plus intensifs, donc comparativement, ça paraît plus léger, mais non, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de menace. Malheureusement, on voit, si on reste sur la haute montagne, la raréfaction de l'eau crée une tension sur l'herbe qui pose des questions sur les charges pastorales admissibles de ces estives-là par les bêtes. Et comme la pression sur les Pyrénées est de plus en plus forte chaque année, parce que les éleveurs du Tarn, du Lot, etc., qui sont confrontés à des sécheresses d'ampleur historique, ben, cherchent de l'herbe, donc montent de plus en plus. Donc la pression subie par les écosystèmes, elle va aller en s'accroissant, parce qu'il y a des gens qui vont venir de plus en plus loin avec de plus en plus de bêtes. Donc ça, si on reste sur le strict point pastoral, c'est un vrai sujet. Idem pour la question de la pollution de l'eau par certains sites très fréquentés ou des refuges en montagne. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a un défi technique qui est celui de l'assainissement de ces zones extrêmement fréquentées. Et un défi technique qui n'est pas toujours solutionnable. Donc ça pose la question du modèle de développement touristique qu'on propose. Et ces questions-là, aujourd'hui, elles sont assez...
En été surtout, parce que l'hiver, les stations de ski ont quand même globalement des équipements maintenant d'assainissement qui sont corrects.
Oui, alors j'ai pas de détails, mais effectivement, comme en hiver, on est un peu plus bas dans les vallées, on n'a pas de vrais villages d'altitude comme on peut avoir dans les Alpes, le problème est moins perceptible qu'avec les refuges, ou sur certains cas, il peut y avoir des problèmes, effectivement. Donc voilà, il va y avoir un certain nombre de chocs climatiques qui vont nous obliger à reconsidérer la manière dont on fréquente, vit de ces espaces. Et c'est ces questions qu'on a envie d'engager et la voie qu'on a envie d'ouvrir avec la Fondation.
Avec la Fondation et toutes les bonnes volontés qui auront envie de vous soutenir financièrement, de vous soutenir scientifiquement ou de vous soutenir bénévolement pour vous accompagner. On rappelle donc qu'il y a un site Clamor, Clamor, C-L-A-M-O-R, T-R-A-E-2-R-A-E. Merci à eux. Merci, c'est .org, je crois. .org. Merci beaucoup, Thomas. Bonne continuation. Au revoir.
Et merci, au revoir.
Lancez la carotte et écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.
HDR.
Filling the buckets overflowing with self-pity. What was I to ponder why? Reasons are led hand in hand by the smoke of her cigarette, imparting ways like strokes in her hair.
Got a vendetta but never get it together. Your best friend is sane. I'm looking at life in a different light. I'm a beast in disguise. I'm waking up this morning, I got trust in my eyes. Funny how the money make a nigga go blind.
Le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.
Le mix.
Kumikata Station, c'est votre émission reggae, un mardi sur deux de 18h à 20h.
Sur la radio HDR.
Deux heures de reggae sur vinyle, des infos du mouvement Sound System, des invités.
C'est Kumikata Station.
Animé par Liviti, un mardi sur deux, sur le 99.fm. En live sur le Facebook de la radio HDR, page Facebook Kumikata Station. Alors n'oubliez pas, un mardi sur deux, c'est Kumikata Station, de 18h à 20h, sur Mix des Cultures.
Repartons, je vous emmène tous les vendredis dès 13h20 et le samedi suivant dès 8h sur Radio HDR 99.1 FM. Repartons, c'est la rencontre avec des passionnés et des professionnels. C'est des discussions et des réponses sur des sujets qui nous intéressent et nous concernent. Repartons, c'est tous les vendredis dès 13h20 et le samedi suivant dès 8h sur Radio HDR 99.1 FM.
amateur de musiques électroniques, cette information est faite pour toi. Des nouveautés, du mix, mais surtout des interviews d'artistes. DJ Academy, c'est votre magazine hebdomadaire Nouvelles Tendances Électroniques. DJ Academy, présenté par Stéphane Chambord, à retrouver sur l'antenne de Radio HDR 99.1 FM, tous les mercredis à partir de 23h.
Préparez-vous à plonger dans l'époque dorée du jazz, de la Nouvelle-Orléans à Harlem, de Chicago à Paris. Les années de jazz, l'émission présentée par Michel Jules, vous emmènera dans un tourbillon musical où le passé rencontre le présent.
Chaque samedi, de 18h à 19h, sur Radio HDR,
laissez-vous porter à travers les décennies pour un voyage sonore unique. Venez découvrir les anecdotes, les mélodies, les rythmes, les chefs-d'œuvre et les grandes figures qui ont fait l'histoire du jazz.
Ne manquez pas notre rendez-vous de jazz hebdomadaire tous les samedis de 18h à 19h sur Radio HDR et en rediffusion le mercredi à 19h.
Alors préparez-vous à swinguer et à vibrer avec les années de jazz, l'émission animée par Michel Jules sur Radio HDR 99.1 FM.
HDR, le mix 99.1.
Yeah, our people them fi know the truth. Original Black Dillings and Martin Jondo. It's all about reggae music, you know. I am on worldwide communication. Listen up.
We are living in a concrete jungle.
So cold them are today.
Them move very dumb and we getting stronger.
We gonna pray for prayer, yeah, we may.
Black Dillings and
Martin Jondo.
We going bigger than Jumbo Miss.
We fighting at the maximum level.
Black
jungles are going in the slow way. Black Dillinger, Martin Jondo, I'm not here to stay. Just come to this to get to you to kneel and pray. And then corrupted people every day. Church away, leave them dirty ways. Cause Babylon are twisting, full of betray. If you get good, there will be no get away. Just hear us stop far right before it's too late.
Get there, fire on me, yeah. Freeze down me soul, I screw down me low. I in a storm, like a lion in a Babylon. Full of awareness, we are singing to the jungle door. You see them batting the mic. Them I could have fallen up into the jello. You hear them lying and talk and fade away with them what? Oh, good la la la, yeah. We are living in a concrete jungle.
So cold them all today.
The more buried them and we getting stronger.
We tell them pray for prayer, yeah, we may.
Black Dillinger,
I'm not in Chondo.
We going bigger than Jumbo Miche.
We finding out that to the maximum level.
Martin Chondo, come and say. I miss you, click, click. My butterfly. I want them preach, it's never what them practice. In them church, in them high class practice. But judge the love and judge the music and feel that.
Look up the fire burning, you know. I reach in a black lily, tell and the one them worry agenda. Ah, people them feel know. Them at 6 feet under, that's why we can pull them, because them not know the truth. Because them truth, don't kick out them front foot. Bless it, bless it, yeah. Tell them I got it.
Rise up my people to the top. Wise up, husband Babylon system not stop. Concrete jungle, through the system that it's a flop. The brother Babylon now you can't crown a pop. Take what they get so you see them can't find a job. No find them start when they can then them start to stop. Babylon them the youth them and make them skyrock. But still we are corrupt and make the wicked man shock. So I go your kids in our say aye from the holy book. Fire bless bomba cut people, yes them I go shock. So go give them no sympathy, no blessing, no love. To them young the fuck fish, yes chicken and duck. Judgment still a curse again.
We are living in a concrete jungle.
So cold them all today.
The more buried them and we getting stronger.
We tell them pray for prayer, yeah we may.
Black Dillinger,
I'm not in Chondo.
We going bigger than Jumbo Miche.
We find the land to the maximum level.
And you will never lead our way.
Yeah, love the king.
Thank you. actions, money drenched passions, heart in cash, get frigid like baskets. Oh. I remember back then, oh, was you acting till you put the mask on, and it was like, hey, chill. You switched colors. Songs are in your eyes, they sing so sad, the airplanes on your mind. You wanna get gone all day if day you're riding high, drowning quiet with the rising tides, like, oh, ooh, like, oh, oh, but. You're the original, you got the